Bonjour, les saints de la semaine nous amènent du lundi 14 au dimanche 20 juin inclus. Lundi 14 juin, saint Élisée, qui fut disciple et successeur d'Élie au 9e siècle avant Jésus-Christ. Fils de Shaphat, prophète de l'ancienne loi, disciple et successeur du prophète d'Élie, il exerça son ministère dans le royaume du Nord, revendiquant avec courage la fidélité au Dieu unique d'Israël face au culte païen de Baal et d'Astarté qui se répandait depuis la scission du peuple de Dieu en un royaume de Juda et un royaume d'Israël. Premier livre des Rois, chapitre 19. Tu consacreras Élisée, fils de Shaphat, comme prophète pour te succéder. Élie s'en alla, il trouva Élisée, fils de Shaphat, en train de labourer. Il avait à labourer 12 arpents, et il en était au 12e. Élie passa près de lui et jeta vers lui son manteau. Alors Élisée quitta ses bœufs, courut derrière Élie et lui dit « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, puis je te suivrai. » Élie répondit « Va-t'en, retourne là-bas, je n'ai rien fait. » Alors Élisée s'en retourna, puis il prit la paire de bœufs pour les immoler, les fit cuire avec le bois de l'attelage et les donna à manger aux gens. Puis il se leva, partit à la suite d'Élie, et se mit à son service. Jésus, en sa première prédication dans la synagogue de Nazareth, fait référence à la fois à Élie et à Élisée. Il rappelle la compassion d'Élie pour la veuve qui vivait à Sarepta et la guérison par le mystère d'Élisée de Naaman, le Syrien, deux païens auxquels le Dieu d'Israël fait accueil et miséricorde. Luc, chapitre 4, versets 25 à 30. C'est donc la commémoration de saint Élisée, disciple d'Élie, qui fut prophète en Israël au temps du roi Joram jusqu'au jour de Joas, au 9e siècle avant le Christ. S'il n'a pas laissé d'oracle écrit, il a cependant annoncé le salut pour tous les hommes en accomplissant des miracles en faveur d'étrangers. Sa tombe était vénérée à Samarie. Nous souhaitons une très bonne fête à toutes les personnes qui se prénomment Élisée. Il existe également un dicton pour la sainte Élisée, qui dit ceci « S'il tonne au mois de juin, année de paille et de foin. » C'est un dicton de l'Indre. Mardi 15 juin, sainte Germaine Cousin, laïque, qui mourut en 1601. Elle était née scrofuleuse, laide et difforme. Sa mère mourut quelque temps après sa naissance et son père n'avait qu'aversion pour elle. Il se remaria et la belle-mère la haïssait. Germaine était orpheline de père et de mère. C'est son demi-frère Laurent qui la recueillit chez lui et laissa sa femme Armande la traiter durement. Ils l'obligèrent à coucher sous l'escalier sur des sarments, lui donnant le minimum de nourriture et lui faisant défense d'adresser la parole aux enfants de sa belle-mère. Il en fut ainsi de l'âge de 9 ans jusqu'à celui de 22 ans où elle mourut. Elle passait son temps avec les bêtes au champ. Ne sachant pas lire, elle récitait son chapelet. Mais tous les matins, elle entendait la sainte messe, laissant son troupeau qui jamais ne causa de dégâts chez les voisins, restant dans les limites qu'elle lui marquait avant de partir. Elle parlait avec Dieu, et cela était pour elle toute joie. Un matin, son père la trouva morte sous l'escalier, et à partir de ce moment, les miracles ne cessèrent d'authentifier sa sainteté. Elle fut canonisée en 1867. À l'aube du grand siècle de Louis XIV, sainte Germaine Cousin mourut donc en 1601 à Pibrac, après avoir vécu dans la plus extrême pauvreté. Orpheline, malade, pauvre, maltraitée par ses proches, elle est la sainte de tous ceux qui souffrent et que la vie malmène d'une manière ou d'une autre. Sainte Germaine est très honorée dans le diocèse du Lot. Rares sont les églises où on ne trouve pas un souvenir de notre bergère sous forme de vitrail, statue, reliquaire ou même cloche baptisée Germaine. C'est donc à Pibrac, au diocèse de Toulouse, en 1601, que Sainte Germaine, Cousin, Vierge, fut dès son enfance astreinte à une vie de servitude et frappée de maladie. Elle endura toutes sortes d'épreuves avec courage et un visage joyeux et mourut pieusement à l'âge de 22 ans. C'est la patronne des bergères et de la jeunesse agricole chrétienne féminine. Il existe un dicton en ce jour de Sainte-Germaine qui dit ceci. Soleil à la Sainte-Germaine, beau temps pour toute la semaine. Nous souhaitons une très bonne fête à toutes les personnes qui se prénomment Germaine. Mercredi 16 juin, Saint Jean-François Régis, qui fut jésuite, apôtre du Vivarais et mourut en 1640. Né à Foncouverte dans l'Aude, il entra très tôt dans la compagnie de Jésus de Béziers, d'où il fut envoyé au Puy. Il se consacra alors avec succès à la prédication. Il fut l'un des plus grands prédicateurs du XVIIe siècle, parcourant le Velay, le Vivarais et le Forez, des régions qui avaient été très marquées par les guerres de religion, ce qui lui mérita le titre d'apôtre du Velay et du Vivarais. Il meurt épuisé de fatigue et de froid au cours d'une mission au bourg de la Louvesque dans le Massif central français, et depuis les pèlerins ne cessent d'y affluer. Né dans l'ancien diocèse de Narbonne en 1597, Jean-François Régis entre à 19 ans dans la compagnie de Jésus. Ordonné prêtre le 16 juin 1630, il devient l'apôtre du Vivarais, dont certains territoires appartiennent alors au diocèse de Valence. Donc l'apôtre du Vivarais, du Forez et du Velay. Il travaille avec ardeur à refaire l'unité de l'Église et à l'évangélisation des campagnes. Il meurt à la Louvesque le 31 décembre 1640. Et d'ailleurs, son tombeau attire encore de nombreux pèlerins. Dur avec lui-même, doux avec les autres, son activité apostolique était grande et remplie de charité et de secours auprès des plus démunis. Il est appelé alors père des pauvres. Enflammé de l'amour divin, il consacrait plusieurs heures de la nuit à l'oraison. Sa vie fut émaillée de miracles et de dons spirituels. À Aix, pays de Foix, on a conservé longtemps une croix en bois qu'il avait érigée lui-même, et son apostolat le fait parcourir un monde rural difficile, dans les grandes étendues du Vivarais et du Forez, dans les montagnes du Velay, au climat rigoureux. C'est à Louvesque, dans le diocèse de Vienne, qu'il contracte alors une maladie mortelle. Il rendit l'esprit au Créateur le 31 décembre 1640, alors qu'il était âgé de 44 ans. Le pape Clément XI proclama solennellement Jean-François Bienheureux et Clément XII l'inscrivit au catalogue des saints. Benoît XIV fixa la célébration de sa fête au 16 juin. Béatifié en 1716, il est canonisé en 1737. Il commença de dire la parole du Christ, expirant. Seigneur, je remets mon âme entre tes mains. Ayant fini, il finit aussi sa vie. Il était âgé de 43 ans et 11 mois. De peur qu'on enlevât le corps du père Régis, le cercueil fut placé dans un tronc de châtaignier, creusé et cerclé de fer, enterré profond dans la petite église de la Louvesque. La dévotion populaire pour le père Régis commença le jour même de sa mort. Le zèle dans l'action, c'est cela qui frappe dans les témoignages que nous retrouvons sur Saint François Régis. Cette action fut longuement préparée par une jeunesse durant laquelle son amour de l'Eucharistie n'a pu être dépassé par aucune autre orientation spirituelle. Sa fervente dévotion mariale accompagnait ce zèle pour l'Eucharistie. Son activité quotidienne débordante était préparée et orientée par des nuits entières de prière, et c'est là le secret de sa fécondité. Saint François Régis, avant d'être prêtre, a été enseignant au collège d'Oscq. À la Louvesque, dans le Vivarais, en 1640, Saint Jean-François Régis, prêtre de la Compagnie de Jésus, parcourut les monts et les villages de la région, prêchant et administrant le sacrement de pénitence et veillant sans relâche à rénover la foi catholique dans les âmes des gens du pays. C'est donc le patron des jésuites de la province de France. Nous souhaitons une très bonne fête à toutes les personnes qui se prénomment Saint François Régis. Jeudi 17 juin, Saint Hervé, qui fut abbé en Bretagne, mort en 568. À part Saint-Yves de Tréguier, il n'est pas de saint aussi populaire que lui en Bretagne. Il était né dans une famille de bardes. Aveugle depuis son jeune âge, guidé par un loup, selon la légende, il mena une vie de pèlerin. Un jour, cependant, il se fixa à Plouviens, puis à Lannoyrneau, Erwan ou Hervé en Bretagne, où il se consacra à Dieu pour enchanter les louanges dans le monastère qu'il y fonda. Saint Hervé est un saint du Léon. Il naquit à l'aube du VIe siècle, près de Lanrioul, en Plouzévédé. Né aveugle, il apprit sur les genoux de sa mère le chant des psaumes et des hymnes, puis s'en fut à l'école de l'ermite Arzian. Jeune homme, il se consacra à Dieu sous la houlette d'un moine de sa parenté, Urfold, Alors y voirait. C'est là qu'un jour, un loup tua l'âne avec lequel Guicharan, le guide d'Hervé, labourait. Sur l'injonction d'Hervé, le loup prit la place de l'âne et acheva le travail. Selon la légende, Saint Hervé vivait avec ses loups à l'endroit qui s'appelle actuellement l'ermitage Saint Hervé à Tréouergat dans le Finistère. Il s'agit d'un petit bois où on peut encore trouver les traces d'une ancienne chapelle, d'un abri, sans doute celui de Saint Hervé, ainsi qu'une fontaine qui laisse toujours couler de l'eau. Tout le monde ignore à quoi ressemblait cet endroit du temps de Saint Hervé. Mais les traces manifestes sont troublantes. Excepté son abri, la chapelle a été rasée ainsi que quelques autres murs alentour. Seules les premières pierres décrivent le tracé des parois au sol. Joli petit endroit, fascinant par son mystère. C'est donc la commémoration de Saint Hervé, ermite au VIe siècle en Bretagne. Ses yeux furent, dit-on, privés de la lumière terrestre dès sa naissance, mais ouverts à celle du paradis, dont il chantait les joies avec bonheur. Nous souhaitons une très bonne fête à toutes les personnes qui se prénomment Hervé. Vendredi 18 juin, Saint Léonce de Tripoli, qui fut martyr à Tripoli au IVe siècle. Soldat phénicien en garnison à Tripoli au Liban, il fut inculpé du crime de prosélytisme car il ne craignait pas de prêcher l'évangile par la parole et par l'exemple. Ce qui lui valut d'être décapité après d'affreuses tortures, dont celle d'être pendu la tête en bas avec une lourde pierre attachée au cou qui l'étouffe lentement. Son culte devint rapidement populaire dans l'église syrienne qui était la sienne. À Tripoli, en Phénicie, vers 304, Saint Léonce, soldat, après de très cruels tourments subis en prison, parvint à la couronne du martyr. Il existe un dicton pour la Saint Léonce qui dit ceci. Pluie de Saint Léonce pour 30 jours s'annonce. Nous souhaitons une très bonne fête à toutes les personnes qui se prénomment Léonce. Samedi 19 juin, Saint Romuald, qui fut fondateur des Camaldules et qui mourut en 1027. Ce jeune homme, plein d'avenir de la noblesse de Ravenne, assiste à 20 ans au meurtre d'un de ses parents. Bouleversé, il se fait moine au monastère bénédictin de Saint-Apollinaire in Classe. Ne trouvant pas au monastère l'austérité parfaite que recherche sa soif d'absolu, il le quitte au bout de 3 ans et se fait ermite, pérégrinant dans la lagune vénitienne. En 978, avec quelques compagnons, il part pour le monastère de Saint-Michel du Cuxa, dans les Pyrénées, où il vit en ermite une dizaine d'années. Lorsqu'il décide de regagner Ravenne pour des raisons familiales, sa réputation de sainteté est si bien établie que des paysans pyrénéens tentent de l'assassiner pour garder au moins ses reliques. Romuald parcourt alors l'Italie, ramenant nombre d'ermites à une vie régulière en adaptant la règle de Saint-Benoît aux exigences de la vie solitaire. Sa rigueur, effrayante parfois, est à la mesure de sa soif d'absolu toujours plus délirante. Vers 1012, un grand seigneur lui fait don d'un domaine à Camaldoli en Toscane, dont il fera le premier ermitage des Camaldules. Troublé dans sa solitude par de nombreux visiteurs, il se retire dans un monastère isolé où il mourra. Saint Pierre Damien, l'un de ses plus illustres disciples, écrira sa vie. C'est donc la mémoire de Saint Romuald, anachorète, et père des moines Camaldules. Né à Ravenne après une jeunesse dissipée, il entendit l'appel du Seigneur qui se confondit pour lui avec l'appel à la vie érémitique. Pendant des années, il parcourut l'Italie, fondant de petits monastères, cherchant partout avec une ardeur infatigable à promouvoir la vie évangélique parmi les moines. Il achèvera sa vie de solitude au monastère de Val del Castro dans les Apennins en 1027. Nous souhaitons une très bonne fête à toutes les personnes qui se prénomment Romuald. Dimanche 20 juin, Saint Silvère, qui fut pape de 536 à 537 et martyr, et qui mourut donc en 537. Élu peu avant la prise de Rome par l'armée byzantine de Bélissère, il réussit à empêcher l'effusion de sang. Mais comme il défend la vraie foi face aux Byzantins, qui sont alors monophysites pour la plupart, il est accusé de haute trahison pour avoir refusé de rétablir le patriarche hérétique de Constantinople. L'impératrice Théodora le condamne à l'exil dans un îlot devant Naples, en Italie méridionale. Pour rétablir la paix, il préfère abdiquer en 537 et meurt quelques mois plus tard. Le pape Silvère a été exilé sur la petite île déserte de Palmerola, où il mourut de faim avec Ponza, Ventotene, San Stefano. L'île de Palmerola fait partie de l'archipel des îles Pontines dans le golfe de Gaëté. N'ayant pas voulu rétablir Antime évêque hérétique de Constantinople, que Sainte Agapie, son prédécesseur, avait déposé, il fut donc, à l'instigation de l'impératrice Théodora, chassé de son siège et envoyé en exil, d'abord en Asie, puis dans cette île où il mourut écrasé par les peines endurées. Nous souhaitons une très bonne fête à toutes les personnes qui se prénomment Silvère. À la semaine prochaine.